La vie culturelle locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.
Vous devez les connaître déjà, les siestes teriyaki, rendez-vous musical de l'été à l'Abbaye Royale de Lépau, un événement à la programmation exigeante qui tient à préserver une proposition véritablement artistique. Alors que propose Teriyaki pour cette année du 21 au 23 août? Pour en parler, je reçois Manu Chapu, président de l'association Teriyaki. Bonjour Manu Chapu.
Bonjour.
Teriyaki a fêté ses 30 ans cette année, cependant les siestes elles n'existent que depuis 15 ans. Alors c'est quoi l'histoire de ces siestes? Comment elles sont nées?
Comment sont nées les siestes? Ça naît souvent par accident. Ça naît les festivals se évoluent au fur et à mesure du temps. Et là, c'était un peu le cas. Les siestes, c'était un événement qui servait à clôturer le festival que l'on avait dans la ville, un cycle de festival, parce qu'on a eu plusieurs cycles de festivals, notamment un de 2008 jusqu'à 2017, qui utilisait des endroits de la ville qui n'étaient pas des lieux de concert habituellement, et les siestes étaient cet événement de clôture du dimanche après-midi pour ce festival. Et puis après 2017, on a décidé de mettre un terme à ce festival un peu itinérant et de développer un seul événement qui serait justement les siestes. L'idée, c'était d'avoir un événement sur lequel on peut proposer de la musique qui soit pas celle que l'on entend habituellement, des artistes que l'on ne connaît pas encore forcément ou qui n'ont pas un temps de ou une représentation dans les médias importante, et puis de les placer sur des créneaux horaires qui sont propices à l'écoute du public, puisque souvent les concerts le soir, il se passe toujours un moment où les gens sont contents de faire la fête, ils viennent pour faire la fête, mais on est moins dans une écoute précise de la musique, et l'idée là c'était de pouvoir justement ouvrir ça sur des après-midi et que les gens puissent venir écouter de manière un peu plus précise ce qu'on leur propose.
Oui, donc l'originalité quand même de ces siestes, c'est qu'effectivement c'est un événement tout public qui s'adresse à toutes et à tous. Par contre, c'est vrai que votre programmation musicale elle est quand même pointue, avec des groupes donc, vous l'avez dit, peu connus du grand public. Est-ce que vous avez toujours le sentiment de prendre un risque quand vous faites votre programmation?
Alors, oui et non. Aujourd'hui, le public se déplace, fait confiance à nos propositions, ils savent ce qu'ils vont y trouver, ils savent qu'il y a des choses qu'ils vont apprécier. Il va y avoir des rencontres musicales, des rencontres artistiques. Ils savent aussi qu'il y a des choses qu'ils vont peut-être moins aimer ou qui vont les surprendre. Et c'est tout l'intérêt de cet événement-là, c'est de ne pas capitaliser sur qui sont les artistes mainstream du moment qui ramènent du monde et qu'on aura pu voir un peu partout. On n'est pas du tout dans cette dynamique-là. Ça existe déjà. C'est important que ça existe. Mais nous, on a décidé de prendre complètement le contre-pied de ça et d'avoir une programmation. Alors, vous disiez tout à l'heure, exigeante, c'est exactement ça. Mais l'exigence peut parfois être traduite par quelque chose qui semblerait être délétiste, mais justement, c'est tout ce qu'on veut pas. L'idée, c'est de pouvoir proposer des formes musicales qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude de voir, mais de créer les conditions pour que celle-ci soit complètement abordable par tout le monde. Donc, le seul risque qu'on prend dans notre programmation, c'est le risque que nous on se donne de trouver la bonne alchimie, le bon équilibre entre tous les artistes que l'on va faire venir. Et ça vient d'un peu partout. On passe beaucoup de temps à faire cette programmation. On fait des pas en avant, on fait des pas en arrière. On essaie toujours de mettre en adéquation les artistes que l'on propose avec des moments particuliers dans la journée, avec une succession. On cherche aussi à ce que la succession des artistes dans le temps fonctionne, et puis aussi en fonction des lieux, parce qu'on a différents lieux dans l'abbaye de Lépau qui sont en intérieur, en extérieur, sur des petites jauges, des plus grosses jauges, avec des modes de diffusion du son différents, et un rapport entre le public et les artistes différents. Et notre programmation, elle essaye d'aller explorer un peu tout ce territoire-là. Donc la seule pression qu'on a, c'est celle que nous, on veut bien se mettre.
Et donc pour montrer encore un petit peu donc, toute la spécificité de cette programmation, on peut parler des genres musicaux. Quand on se penche sur la programmation, on peut lire des choses comme électro-chiptune, trouble électronique, pop bastringue. Bon, on n'est pas beaucoup plus avancé. Ce sont des vraies catégories ou vous les inventez, Manu Chapu?
C'est alors on les invente, voilà, on les invente. Ça nous fait rire en fait. L'idée c'est de pas se prendre au sérieux. Et on n'a pas envie de faire un festival de musique qui se sente plus intelligent que les autres. La musique que l'on passe, que l'on présente, parfois elle demande une qualité d'écoute et un effort d'écoute peut-être plus important que quelque chose qui serait plus immédiat. Mais en même temps, l'idée c'est quand même de créer du lien, que les gens se rencontrent, que les gens prennent du plaisir autour de la musique. Et voilà, et quand on programme nos groupes, nous on envoie énormément des groupes et on envoie tellement qu'on arrive à trouver, et puis on prend des groupes aussi qui sont tellement précis qu'on arrive à trouver des petits points très très particuliers sur cette musique là et on s'amuse beaucoup à inventer des genres musicaux. Alors généralement il y est, quand on dit trouble électronique par exemple, là c'est pour l'artiste Unag Haynes, c'est une jeune fille qui fait de la musique électronique mais avec une sensibilité particulière, donc on essaye de trouver quelque chose qui imagerait en tout cas sa musique, mais ce ne sont pas des vraies catégories. On passe beaucoup de temps et alors il faudrait presque faire un espèce de flyer à part avec tous les essais qu'on a fait sur les noms, puisque parfois on y retourne après, on se dit non mais c'est absolument n'importe quoi. Voilà, mais nous ça nous fait rire quand on prépare les flyers et la communication de trouver des choses un peu particulières.
Alors pour donner un autre exemple, pour donner un petit avant-goût du festival, on a par exemple Martha qui joueront le 22 août. C'est de la techno-accord selon vous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire?
Techno-accord, tout est dedans, c'est de la techno avec des instruments à cordes. Martha, c'est un duo qui explose en ce moment, qui dépasse là, les plus de 100 000 abonnés sur Insta, ce qui est beaucoup pour un groupe français. Et Martha, c'est un duo qu'on suit depuis quelques années et qui propose de la musique électronique en mode techno, parfois même un peu house, mais avec une façon de la présenter qui est complètement différente. Là, on n'est pas dans un DJ set avec des tracks qui seraient passés depuis un ordinateur. Là, on a un batteur qui trigue sa batterie. Alors, triguer, ça veut dire que chaque coup de baguette déclenche des séquences électroniques. Donc voilà, il lance les séquences électroniques de cette façon-là. Et puis, son comparse utilise un violon pour lui jouer la partie mélodique. À l'écoute, je mets au défi quiconque une écoute à l'aveugle de savoir que là tout est joué par des instruments. Voilà. Et pourtant en live, c'est exactement ce qui se passe. C'est joué batterie, violon et instruments électroniques, mais c'est une autre façon de présenter la musique électronique.
Et donc oui, donc c'est au total une petite dizaine de groupes, hein, je crois, qui sont programmés sur le festival.
Alors je sais plus combien il y a de projets, je crois que c'est 17 ou 18 projets sur l'événement.
Un peu plus que ce que je me souvenais, excusez-moi. Donc oui, plutôt une grosse quinzaine de groupes qui sont prévus sur ce festival, qui sont tous singuliers. Vous pouvez aller les retrouver en vous renseignant sur le site des Siestes Teriyaki. Précisons aussi que ces groupes viennent de l'international, Royaume-Uni, Ukraine. Il y a une résonance internationale des Siestes Teriyaki, en tout cas dans le monde musical.
Alors, ça serait difficile, moi je sais pas, je peux pas le quantifier. Après, ça fait longtemps qu'on est là, ça fait 30 ans qu'on fait des concerts, donc on a rencontré énormément de personnes au cours de ces 30 ans. Donc oui et non, en tout cas l'international, il y a des relais, hein, il y a des agents, les agents connaissent les Siestes et acceptent de venir. Là, par exemple, je prends le groupe Maol, qui est un groupe féministe irlandais qu'on a vu l'année dernière, par exemple, à la Route du Rock. C'est un groupe assez important dans sa catégorie. Quand on leur a proposé de venir, les agents étaient déjà au courant, connaissaient déjà l'événement et ça facilite les choses pour qu'ils viennent. Là, c'est une date unique. Donc oui, on finit par avoir un petit réseau où les gens savent. Katia Cherchkova qui est russe, c'est la même chose. On a un réseau qui fait que les gens sont au courant de ce que l'on fait, de ce que l'on propose et de notre singularité à la fois dans les lieux et dans les modes de présentation de la musique. On n'est pas sur des grandes scènes, on est sur des scènes à taille humaine, avec des dispositifs sonores qui sont différents de ceux d'une grande scène avec des grappes de son. Nous, on va plutôt aller chercher comment le public va se retrouver face au groupe. Est-ce que le groupe va jouer au centre, au sol, sur une scène, au centre du public, en quadriphonie, en polyphonie, en multidiffusion, ou de manière plus classique en façade, sur une petite scène, sur une plus grande scène. On va essayer toujours de trouver comment présenter ces artistes de manière différente. L'idée, c'est qu'on peut revoir ces groupes à un autre moment. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se rappellent uniquement de quand ils les ont vus chez nous parce que le concert était différent.
C'est presque les mêmes réflexions que la disposition d'œuvres d'art dans l'exposition d'un musée, en fait, quoi.
C'est, eh ben, notre sous-titre, c'est musique aventureuse ou musique amplifiée et scénographie. L'idée, il y a vraiment de ça. L'idée, c'est de mettre en scène les artistes que l'on reçoit sans que ça soit pompeux, mais il suffit parfois de peu de choses pour qu'un concert soit complètement différent. Faire jouer un groupe, on l'a testé plein de fois. Il y a 2 ans, on avait fait jouer un groupe d'Hollandais qui s'appelle Spielgold, qui ont joué au sol, au milieu du public. Il s'est mis à pleuvoir. Le public a tenu. On a fait un espèce de couverture de survie pour survivre à la pluie. Et tout le monde s'est agglutiné autour de ces deux batteuses qui faisaient partie intégrante du public. Et ça crée un rapport à la musique qui est complètement différent. Il y a plein de moments comme ça dont on me parle encore de dispositifs où les gens se sont retrouvés pris dans la musique d'une manière qu'ils ne peuvent pas avoir quand ils sont dans une salle de spectacle classique.
Et pourtant, les siestes teriyaki, ce ne sont pas seulement des concerts. Il y a aussi une part de la programmation consacrée à des installations sonores et visuelles, des performances. Alors, à quoi il faut s'attendre cette année ?
Alors, cette année, on a plusieurs choses. Là, c'est pareil, on fouille. Hein. Il y a pas mal de choses cette année. On a de la méditation, j'en dis pas plus. Adour méditation, c'est une expérience sensorielle, visuelle, physique. J'en dis pas plus.
Il y a beaucoup de choses.
Ouais. Il y a beaucoup de choses. Il y a surtout beaucoup de second degré. Donc ça, j'invite à aller le voir. On a Alexandre Chanoine qui fait de la musique avec tout ce qui est le plus rudimentaire, le premier outil de l'homme, des pierres. Comment est-ce qu'on arrive à faire chanter des pierres ? J'en dis pas plus. Pareil, lui, en tout cas, il y arrive. Et c'est un artiste qui nous demande très peu de technique puisqu'il a juste besoin d'un espace au sol. Même pas besoin d'électricité. Et pourtant, il arrive à faire chanter ses pierres. Et puis, la grosse installation cette année, c'est Luciférine par un artiste qui s'appelle Thomas L'Aigle. La luciférine, c'est une bactérie qui a été découverte dans les fosses marines du sud de la France et qui, lorsqu'elle est soumise à certaines conditions de température et de pression, émet de la lumière. Et là, l'artiste va utiliser ces bactéries dans une solution liquide, la faire traverser tout un système de verrerie. Alors, c'est une pièce assez importante, hein, qui fait à peu près 3 ou 4 mètres de diamètre et de hauteur. Et dans lequel, donc toute une verrerie faite spécialement pour cette œuvre, dans laquelle la solution avec les bactéries se déplace, il contrôle le déplacement des bactéries, il contrôle le fait qu'elles se mettent à s'oxyder et à faire de la lumière. Et ces bactéries, en fonction de leur passage dans certains tubes et à certains endroits et avec certains capteurs, viennent jouer une partition sonore. Et là, l'artiste peut contrôler le déplacement de ces bactéries et donc gérer la partition musicale qui va en découler. C'est absolument assez incroyable à voir, et c'est encore une fois des gens qui sont des vrais génies et qui détournent des objets du quotidien ou des objets naturels ou des systèmes naturels pour en faire autre chose.
Qui font de la musique totalement autrement, en tout cas. Et puis, autre élément important du festival, la venue de la racle et de la fanzinothèque. De quoi se fabriquer des souvenirs avec nos petites mains, Manu Chaput ?
Exactement, l'idée dans les siestes, les trois pendants, c'est les concerts, donc la musique, les installations dont on vient de parler, et également les ateliers, pouvoir aussi pratiquer. La racle, ils sont du Mans, tout le monde les connaît, hein, tout le monde a maintenant, je pense, dans sa garde-robe un t-shirt qui a été imprimé par la racle. On fait venir depuis 2 ans également la fanzinothèque de Poitiers, qui est une ressource sur le fanzina en France, et on permet au public de venir créer son fanzine le jour de l'événement. C'est-à-dire qu'on vient, on crée des pages, on découpe, on utilise des flyers, on utilise des crayons, on utilise ce qu'on veut. On peut mettre, je ne sais pas moi, quelques mots sur ce que l'on vient d'entendre, sur ce qu'on voudrait écouter, sur une anecdote qu'on a eue dans le festival, ou simplement faire un montage d'images. On le transmet à la fanzinothèque, et la fanzinothèque, avec la racle qui va aussi imprimer une partie des couvertures, on crée un fanzine qui est disponible le dimanche, à partir du milieu d'après-midi le dimanche, et qui retrace un petit peu ces plusieurs jours de concert. Et c'est unique, c'est diffusé uniquement à ce moment-là, c'est gratuit ou à prix libre, et le public peut repartir avec un fanzine spécial qui est né le jour de l'événement.
Et vous disiez que ça fait 2 ans que vous faites venir à la fanzinothèque de Poitiers. Elle était aussi déjà venue plus tôt dans l'année pour les 30 ans de teriyaki. Il y a une relation qui se consolide avec eux. Comment l'univers fanzine trouve sa place dans le festival Teriyaki? Comment cette univers fanzine rencontre la musique?
Mais toujours le réseau, en fait. Ce sont la fanzinothèque de Poitiers. Elle est située et elle travaille avec une salle de concert qui s'appelle Le Confort Moderne, avec qui on entretient des liens qui sont assez étroits. Tous nos techniciens lumière sont issus du Confort Moderne de Poitiers. C'est avec eux qu'on développe la scénographie du site. Le fanzina, c'est ce qui a permis de faire connaître, avant qu'il y ait Internet, c'est quand même un peu ce qu'on utilisait pour pouvoir justement parler de musique. Aujourd'hui, Internet a un peu tout avalé, et là, on est en train de faire un petit peu de reverse engineering et de revenir sur des modes de communication qui sont peut-être moins envahissants et moins éphémères que peuvent être Internet.
Et on rappelle que tout ça se passe à l'Abbaye Royale de Lépau, grâce au soutien du Conseil départemental de la Sarthe. Les Sesterniakais se sont aussi construites à travers ce lieu d'accueil-là.
Exactement. C'est une coproduction. Quand on a commencé à faire nos festivals, on avait différents partenaires. Et puis, quand on a décidé de se focaliser sur les siestes, le département, le Conseil départemental, est vraiment devenu notre allié et coproduit l'événement avec nous. On a chacun nos responsabilités sur cet événement-là. Mais ce n'est pas simplement « Allez, on vous laisse le lieu, faites quelque chose ». Il y a vraiment une co-construction entre le département, l'abbaye de Lépau, qui est aussi un lieu très particulier à aménager, et toutes les équipes de Lépau sont impliquées dans notre événement, et Teriyaki. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on construit ensemble. Nous, on est responsable de la partie vraiment artistique, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'on a envie que le public vive comme expérience. Et puis, le département va nous aider à financer et à trouver tous les moyens pour que ce soit faisable.
Je vous remercie, Manu Chaput, président de l'association Teriyaki. Et donc, on le rappelle, les siestes Teriyaki, ce sera du 21 au 23 août. Merci beaucoup.
Merci.
La vie culturelle locale avec Charlie Pless sur Radio Alpa.